Freeman Dyson vient de mourir et c'est avec lui le 20e siècle dans ce qu'il avait de plus fantastique, de plus terrifiant, de plus fantasmagorique qui vient de disparaître. Je l'avais découvert dans un petit livre, un recueil d'articles paru en 2009 et joliment appelé « La vie dans l'univers ». « La vie dans l'univers », c'était le grand tourment de Freeman Dyson, physicien contemporain et acteur du possible holocauste nucléaire et de l'extinction envisageable de la vie. C'est par lui, par exemple, que j'ai découvert l'auteur de science-fiction génial Olaf Stapledon, si génial que quand il publie « Créateur d'étoiles » en 1937, celui-ci, qui vient de la théologie, ne sait pas que la science-fiction existe et qu'il la réinvente en même temps qu'il écrit ce grand poème théologico. Cosmique. Freeman Dyson est né en Angleterre en 1923. C'est là son grand fond mythologique, la source de son imaginaire. C'est quelque chose d'assez mal connu en France, qui commence avec Chesterton, qui va du C.S. Lewis de la trilogie cosmique à Tolkien, et qu'il faudrait appeler le fantastique chrétien, quelque chose d'aussi prodigieux que les contes de fées médiévaux, que les légendes du Graal, que la divine comédie de Dante, mais qui remplacerait les enchantements anciens par ceux plus neufs et pas moins énigmatiques de la science nouvelle. Et il y avait bien quelque chose de Tolkien chez Freeman Dyson, et pas seulement dans sa ressemblance de plus en plus marquée à mesure qu'il vieillissait avec Gollum, lié sans doute à sa trop longue fréquentation avec l'anneau des modernes, l'énergie nucléaire, dont il fut l'un des plus singuliers architectes et penseurs. Un peu trop jeune pour intégrer le projet Manhattan, il a fréquenté néanmoins toute sa vie les inventeurs de la bombe. C'est par exemple lui qui initia Oppenheimer au diagramme de Feynman. Il accepte, un peu plus tard, une mission de contrôle des arsenaux de la guerre froide, avec cet argument étrange: il faut bien que ces missiles soient en état de fonctionner pour éviter qu'on en refabrique d'autres et qu'on relance par là la course aux armements. Il compare d'ailleurs les pacifistes de la seconde moitié du XXe siècle aux premiers abolitionnistes. S'il leur a fallu plusieurs siècles de combats pour triompher enfin, ce sont eux qui ont posé les premières graines de l'abolition future, irréversible, de l'esclavage. Freeman Dyson était un optimiste. Il avait entre-temps trouvé comment recycler tout cet arsenal. Il est l'un des principaux contributeurs du fantastique projet Orion, qui prévoyait d'utiliser des bombes atomiques pour propulser un vaisseau spatial. On retrouve là les préoccupations qui font la grandeur de Freeman Dyson, son obsession pour la vie dans l'univers. Il a ainsi imaginé plusieurs astucieuses techniques de détection d'éventuelles civilisations extraterrestres avancées. Dans un article prodigieux, La variété des expériences humaines, il nous invite d'ailleurs, pour anticiper sur la découverte d'une intelligence extraterrestre évoluée, à prendre mieux en considération le spectre autistique, comme s'il y avait là, dans ces décalages vers le rouge de nos ontologies humaines, une première sorte de voyage, un aperçu de ce que pourrait être le pur esprit d'un univers devenu intégralement pensant. À moins que cette vie dans l'univers, il nous faille moins la découvrir que la répandre, comme en transformant Orion en arche interstellaire, Freeman Dyson, dans une autre spéculation géniale, répond au paradoxe de Fermi par une intuition architecturale renversante. Si nous n'avons encore découvert aucune civilisation extraterrestre, c'est sans doute parce qu'une civilisation extraterrestre vraiment avancée serait par essence indétectable, car elle aurait construit autour de son étoile originelle une sphère parfaitement étanche pour en optimiser le rendement énergétique. Il n'y aurait rien à voir de l'extérieur, aucune déperdition, aucune fuite. On appelle désormais ce genre de structure une sphère de Dyson, et c'est l'un des plus beaux objets de la science-fiction. Freeman Dyson disait qu'il en avait eu l'idée précisément en lisant Olaf Stapledon. Stapledon et son idée, aussi chrétienne que hérétique, de prêter un jour la vie à l'univers entier. C'est l'une des obsessions du vœu Freeman Dyson, qui finit sans doute par considérer que même ces sphères étaient trop petites. Il calcula ainsi, à la fin du XXe siècle, dans une série d'articles de physique, à quelles conditions un univers, malgré les irréversibles déperditions énergétiques prévues par la seconde loi de la thermodynamique, pourrait durer toujours dans quelques enclaves conçues comme des grosses horloges astronomiques, et la vie de s'y maintenir indéfiniment dans un état de lente hibernation, qui est ce qui ressemble le plus scientifiquement au beau concept chrétien de la vie éternelle.